Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast bonus du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous embarquons dans un épisode un peu particulier des épisodes bonus. Jusque-là, les épisodes bonus étaient essentiellement consacrés à la voix poétique d'un poète ou d'une poétesse. Mais nous allons explorer ensemble dans cet épisode l'une des dimensions les plus mystérieuses et les plus lumineuses de l'expérience humaine, telle qu'elle s'inscrit dans la langue poétique, le pardon. Et ce premier épisode sur une forme de la nature humaine, eh bien, sera très certainement le début d'une longue aventure que nous allons parcourir ensemble. Alors, le pardon traverse les siècles de création poétique, un peu comme une sorte de lumière discrète. Des psaumes bibliques aux vers contemporains, des ghazals persans aux alexandrins français, cette grâce singulière habite le verbe des poètes avec une constance que je trouve remarquable. Alors, pourquoi donc cette présence récurrente ? Parce que le pardon touche au cœur même de l'humanité. Cette capacité tout à fait paradoxale de transformer la blessure en sagesse. La rupture en une forme de réconciliation et la chute en une forme de renaissance. Aujourd'hui, je vous propose que nous cheminions ensemble dans les jardins secrets de cette expérience intime accompagnée par les voix les plus authentiques de la tradition poétique mondiale. Nous découvrirons comment le verbe poétique lui-même devient un creuset alchimique où la souffrance se transmute en compassion, où la mémoire meurtrie s'ouvre à une compréhension nouvelle de ce que signifie être pleinement humain. Lorsque nous évoquons le pardon dans la littérature versifiée, nous touchons immédiatement à un paradoxe fondamental. Le poète écrit souvent depuis la blessure, depuis cette déchirure intime qui réclame expression. Or, simultanément, l'acte même d'écrire instaure une distance, crée une sorte d'espace où peut naître la transformation. Victor Hugo, par exemple, que je vous ai cité déjà plusieurs fois dans différents podcasts, dans sa méditation sur la mort de sa fille Léopoldine, écrivait ces vers qui restent gravés dans la mémoire collective. « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. » Ces mots portent en eux toute la dignité du deuil, mais aussi quelque chose de plus vaste. Une sorte d'acceptation qui confine au pardon. Non pas le pardon accordé à quelqu'un en particulier, mais cette réconciliation profonde avec le destin lui-même, avec l'ordre mystérieux de l'existence qui arrache ce que nous chérissons le plus. Cette dimension du pardon cosmique, du pardon adressé à la vie elle-même, constitue peut-être la forme la plus élevée de cette expérience. Elle suppose une maturité spirituelle que je trouve considérable. Reconnaître que nos souffrances participent d'un mouvement qui nous dépasse, que nos blessures s'inscrivent dans la grande tapisserie du réel. Les poètes mystiques d'Orient comme d'Occident ont particulièrement exploré cette voie. Je pense à Rumi, le grand maître soufi du XIIIe siècle, qui chante dans ses quatrains une forme de pardon universel qui dissout les frontières entre le moi et l'autre, entre l'offense et l'offrande. Au-delà des idées de bien agir et de mal agir, il existe un champ « Je t'y rencontrerai ». Cette invitation dépasse la simple réconciliation interpersonnelle pour toucher à une vérité métaphysique. Le pardon véritable s'accomplit dans cet espace où les dualités s'effacent et où la conscience retrouve son unité originelle. La tradition chrétienne a profondément imprégné la poésie occidentale de cette théologie du pardon. Paul Verlaine, dans sa période de conversion spirituelle, compose des vers d'une simplicité que je trouve bouleversante où transparaît l'expérience du pardon reçu et donné. Ô mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour et la blessure est encore vibrante. Cette paradoxale blessure d'amour exprime la nature double du pardon. Il fait mal et guérit simultanément. Il ouvre et referme. Il détruit l'ancien moi pour permettre l'émergence d'une conscience renouvelée. Le poète devient le lieu vivant de cette métamorphose et ses vers témoignent de ce passage initiatique. Je vous propose maintenant que nous observions comment les poètes ont incarné cette expérience abstraite dans la matérialité des images et des symboles. L'eau, par exemple, revient constamment comme métaphore du pardon. L'eau lustrale, pluie purificatrice, fleuve qui emporte les souillures. L'eau est aussi également, et je l'ai remarqué avec un certain recul, très présente dans mes propres poésies. Cette symbolique de l'eau traverse absolument toutes les traditions spirituelles et trouve dans la poésie son expression, je trouve, la plus sensible. L'eau lave, mais elle dissout aussi, transforme la rigidité en fluidité, rend à la vie son mouvement, finalement. Quand Anna de Noailles écrit sur les jardins après la pluie, quand Antonio Machado évoque les chemins mouillés de rosée matinale, quelque chose du pardon habite ces passages liquides où la terre reçoit la grâce du ciel. La lumière constitue une autre image récurrente. Le pardon illumine, chasse les ténèbres de la rancune et du ressentiment. Cette lumière, elle peut surgir brutalement comme une sorte de révélation fulgurante, ou bien elle peut filtrer doucement, un peu comme une eau progressive. Les poètes mystiques jouent bien sûr magistralement de ces variations lumineuses. Jean de la Croix, dans « Ces nuits obscures », décrit l'itinéraire spirituel comme un passage des ténèbres vers une clarté qui transcende toute compréhension ordinaire, finalement. Le pardon participe de cette illumination intérieure qui transforme notre regard sur nous-mêmes et sur autrui. Les métaphores végétales abondent aussi également. Le pardon apparaît comme une graine enfouie qui germe lentement, comme un arbre qui déploie ses branches malgré les saisons difficiles, comme une fleur qui s'ouvre après l'hiver. Cette dimension organique rappelle que le pardon suit un rythme naturel, qu'il ne peut être forcé ni précipité. Il mûrit selon des lois qui échappent à la volonté consciente. Les haïkus japonais, dans leur attention minutieuse au cycle de la nature, suggèrent souvent cette sagesse. Accepter le temps nécessaire à toute transformation véritable, ne pas violenter le processus de guérison. Une fois vu tout cela, j'ai envie d'aborder avec vous eh bien, cette partie qui m'est si chère, et vous le savez, pour mes fidèles auditrices et auditeurs, de la tradition hermétique et alchimique. Le pardon peut être compris dans cette partie comme une œuvre de transmutation. L'alchimie spirituelle ne cherche pas à transformer le plomb en or matériel, mais bien la matière psychique, grossière, en substance subtile et lumineuse. Le pardon accomplit précisément cette opération. Il prend la matière lourde du ressentiment, de la colère et de la douleur, et par un patient travail intérieur, la transforme en compassion, en compréhension, en paix. Cette Perspective alchimique éclaire d'un jour nouveau certains poèmes qui, sans référence explicite à l'hermétisme, décrivent néanmoins ce processus de transformation. Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, extrait constamment la beauté de ce qui semble corrompu, la lumière de ce qui paraît totalement obscur. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de pardon poétique ? Reconnaître que même le mal, même dans la déchéance, persiste une étincelle divine, une possibilité de rédemption. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Ce vers résume admirablement l'alchimie du pardon, cette capacité de métamorphoser ce qui nous blesse en ce qui nous élève. Il y a les trois grandes phases de l'œuvre alchimique, Nigredo, Albedo, Rubedo, qui trouvent leur correspondance dans le parcours du pardon. La phase noire représente la confrontation avec la blessure, la descente dans la souffrance, l'acceptation de notre part d'ombre. De nombreux poèmes explorent ce territoire sombre, cet enfer personnel où l'âme se débat. Puis vient l'albédo, la phase blanche, celle de la purification, du détachement progressif, de la prise de distance en quelque sorte. La parole poétique elle-même accomplit cette œuvre de blanchissement, lavant la mémoire de ces toxines émotionnelles. Enfin, la rubedo, la phase rouge, couronne le processus. C'est la renaissance dans une conscience unifiée, la découverte d'un amour qui transcende la dualité, offense-pardon. La mystique, dans toutes les traditions, accorde au pardon une place centrale. Sans pardon, pas de dissolution de l'ego, pas d'union avec le divin, pas de réalisation spirituelle authentique. Les grands poètes mystiques ont donc naturellement fait du pardon un thème majeur de leur œuvre. Saint François d'Assise, dans son Cantique des créatures, célèbre ceux qui pardonnent par amour de toi, avec un grand T majuscule, et supportent épreuves et maladies. Le pardon s'inscrit ici dans un mouvement d'amour universel, dans une forme de fraternité cosmique qui embrasse absolument toute la création. Angelus Silesius, qui était un mystique allemand du XVIIe siècle, condense dans ses distiques fulgurants la sagesse du pardon. La rose est sans pourquoi fleurit parce qu'elle fleurit. Eh bien, cette phrase, qui est célèbre, suggère que le véritable pardon ne cherche ni raison ni justification. Il surgit spontanément, comme la fleur s'ouvre, comme le soleil brille. Il appartient à l'ordre de la grâce, non à celui du calcul ou de la volonté forcée. Cette vision libère le pardon de toute pesanteur morale, pour le restituer finalement à sa nature première, un élan vital, une sorte de mouvement de l'être vers sa plénitude. Sainte Thérèse d'Avila, dans ses poésies spirituelles, explore la douceur du pardon divin, mais aussi l'exigence du pardon fraternel. Elle disait « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. » Cette paix intérieure qu'elle recommande, eh bien, se fonde sur une pratique constante du pardon, sur un renoncement aux griefs qui maintiennent l'âme dans l'agitation. La poésie mystique enseigne ainsi que le pardon constitue moins un acte ponctuel qu'un état d'être permanent, une disposition du cœur cultivée jour après jour. La modernité poétique n'a pas abandonné le thème du pardon, je l'ai cru durant un temps, mais j'ai redécouvert un certain nombre d'œuvres, et j'ai même trouvé finalement qu'il l'a approfondi dans des directions tout à fait nouvelles. Face aux catastrophes du XXe siècle, les guerres mondiales, les génocides, le totalitarisme, la question du pardon s'est posée dans des termes d'une gravité totalement inédite. Peut-on pardonner l'impardonnable ? La poésie d'après-guerre, notamment celle issue de l'expérience concentrationnaire, porte cette interrogation déchirante. Paul Celan, rescapé de la Shoah, dont les parents ont péri dans les camps, écrit une poésie hantée par la question de la mémoire et du possible pardon. sa fugue de mort ne pardonne pas. Elle ne peut pas pardonner. Et pourtant, on maintient vivante la possibilité du langage, de l'adresse à l'autre et de la transmission. Ce maintien de la parole, malgré tout, constitue peut-être une forme ultime de pardon. Refuser que l'horreur est le dernier mot. Continuer à témoigner d'une humanité qui va transcender la barbarie. Yanis Ritsos, poète grec engagé, témoin des déchirements de son pays, écrit des vers où la douleur collective cherche une issue vers la réconciliation. Sa poésie n'euphémise rien, ne minimise aucune souffrance, mais maintient ouverte la porte d'une fraternité possible, d'un avenir où finalement les ennemis d'hier pourront se reconnaître comme des frères. Cette tension entre mémoire et dépassement caractérise beaucoup de poésie contemporaine, finalement. Dans un registre un peu plus intime, il y a des poètes comme René Char ou Yves Bonnefoy, que vous connaissez certainement, qui explorent le pardon à soi-même. Cette difficile acceptation de nos propres failles, de nos erreurs, de notre finitude. Bonnefoy, dans « Du mouvement et de l'immobilité de Douve », traverse la mort symbolique pour accéder à une parole renouvelée, lavée de ses illusions. Ce parcours poétique mime l'itinéraire du pardon, mourir à ce que nous croyons être pour renaître dans une vérité plus vaste. La poésie orientale, également, offre des perspectives complémentaires sur le pardon, souvent moins marquées par la culpabilité judéo-chrétienne, davantage ancré dans la compassion bouddhique ou la non-dualité hindoue. Les ghazals persans, que je vous disais tout à l'heure, de Hafez, chantent un amour divin qui dissout toutes les fautes dans l'océan de la grâce. Le poète mystique se présente comme le pire des pécheurs, mais cette rhétorique de l'abaissement sert paradoxalement à magnifier l'infinie miséricorde divine. Mon cœur est rempli de 100 000 péchés, mais le pardon de Dieu est plus vaste que les océans. Cette démesure même du pardon le place au-delà de toute comptabilité morale. La poésie zen cultive le pardon comme dissolution de l'attachement. Nombreux sont les poèmes qui évoquent le lâcher-prise, l'acceptation de l'impermanence, le renoncement aux attentes qui génère souffrance et ressentiment. Ryokan, qui est un poète et moine zen du XVIIIe siècle, vivait dans une simplicité extrême et composait des vers d'une limpidité enfantine. D'ailleurs, quand des voleurs visitèrent sa hutte et ne trouvaient rien à dérober, il écrivit « Le voleur n'a pu emporter la lune à ma fenêtre. » Cette phrase, dans son contexte, a été un véritable guide pour moi, menant vers une sorte de détachement absolu, une absence de rancune, cette capacité de trouver la beauté même dans le dénuement, incarne, à mon sens, une forme de pardon radical. Il n'y a rien à pardonner, car il n'y a aucune appropriation. Aucun moi blessé qui réclamerait réparation. Kabir, qui est un poète indien, enfin était un poète indien du XVe siècle, tisseur de profession et sage mystique, chante dans ses dohas l'unité fondamentale de toutes les traditions religieuses et la vanité des querelles sectaires. Son message de pardon et de réconciliation transcende les divisions entre hindous et musulmans. Il disait « J'ai ri quand on m'a dit que le poisson dans l'eau avait soif. » Cette ironie pointe l'absurdité de nos divisions, de nos rancunes, de nos séparations artificielles. Le pardon devient ici une sorte de reconnaissance de l'unité sous-jacente à toute manifestation. Philosophiquement, Le pardon interroge la possibilité même du temps et du changement. Pardonner, c'est accepter que le passé ne définisse pas entièrement l'avenir. C'est ouvrir un espace de nouveauté et de renaissance. Les poètes ont intuitivement saisi cette dimension temporelle du pardon. Quand Guillaume Apollinaire, par exemple, écrit « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ?» La joie venait toujours après la peine. Il évoque cette fluidité du temps qui emporte joie et peine et suggère qu'un certain pardon s'accomplit dans ce flux même, dans cette acceptation de l'écoulement. La philosophie existentialiste a médité sur la liberté, sur notre capacité de nous réinventer malgré notre facticité, malgré le poids de notre histoire. Le pardon participe de cette liberté ontologique. En pardonnant, nous refusons de laisser le passé déterminer mécaniquement le présent. Cette dimension existentielle transparaît dans toutes les poésies authentiques du pardon. Le poète s'affirme libre vis-à-vis de sa propre blessure, libre de lui donner sens, de la transformer et finalement de la dépasser. Vladimir Jankélévitch, dans son ouvrage magistral sur le pardon, distingue le pardon véritable de l'excuse ou de l'amnistie. Le pardon authentique s'adresse à l'impardonnable, à ce qui ne peut être ni compris ni justifié. Cette radicalité du pardon trouve peu d'expression dans la philosophie discursive, mais la poésie peut l'atteindre par d'autres voies. Les vers ne démontrent pas, ils montrent. Ils créent l'expérience même de ce pardon impossible, et pourtant bien réel, de cette grâce qui suspend les lois ordinaires de la justice et de la causalité. La tradition kabbalistique n'est pas en reste et offre d'ailleurs, à mon sens, un éclairage tout à fait singulier sur le pardon, à travers le concept de Tikkun Olam, j'espère avoir bien prononcé, qui est simplement la réparation du monde. Selon cette vision, l'univers lui-même porte les traces d'une brisure originelle. Et chaque acte de bonté, chaque pardon accordé, participe à la restauration de l'harmonie cosmique. Le poète devient ainsi un ouvrier de cette réparation et ses vers accomplissent une œuvre de guérison qui dépasse largement sa personne individuelle. Les séphirotes de l'arbre de vie kabbalistique incluent Hesed, la miséricorde, et Gevura, la rigueur. Le pardon s'inscrit dans le flux vivant entre ces deux principes. Il ne nie pas la justice, il ne minimise pas l'offense, mais ouvre une voie de compassion qui transcende la stricte application de la loi. Nombreux sont les poètes juifs qui, sans être kabbalistes, au sens technique du terme, ont intégré cette sagesse dans leur œuvre. Edmond Jabès, dans le livre des questions, explore l'infini du pardon et de la faute dans une méditation poétique qui entrelace les voies, les époques, les plans de réalité. Le Shabbat, dans la tradition juive, constitue un temps de pardon hebdomadaire, un moment où les créatures se réconcilient avec le Créateur et entre elles, au pluriel. Cette rythmicité du pardon, cette inscription dans le temps cyclique plutôt que linéaire, a profondément marqué la sensibilité poétique juive. Le pardon n'est pas un événement unique, mais plutôt un retour régulier, une respiration de l'âme qui nécessite une attention constante. Les psaumes bibliques représentent peut-être le corpus poétique le plus ancien consacré au pardon. Le Miserere, psaume 51, demeure l'archétype de la supplication pénitente. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Cette poésie sacrée a modelé pendant des siècles la conscience occidentale du pardon, établissant une relation dialogique entre l'homme pécheur et le Dieu miséricordieux. Mais au-delà de la simple imploration, les psaumes enseignent aussi le pardon fraternel. Heureux celui dont la faute est enlevée et le péché est remis. Eh bien, cette béatitude du pardon reçue résonne à travers toute la poésie spirituelle ultérieure. Elle établit que le pardon n'est pas seulement libération de la faute, mais accès à une joie supérieure, à une sorte de paix qui dépasse l'entendement. La poésie religieuse médiévale, des troubadours chrétiens aux poètes soufis, a développé une mystique amoureuse où le pardon occupe une place centrale. L'âme épouse, cherche le pardon de son bien-aimé divin, mais découvre que ce pardon est toujours et déjà accordé, que l'amour précède la faute et la dépasse infiniment. Cette antériorité du pardon sur l'offense constitue un renversement théologique majeur. Nous ne sommes pas d'abord coupables, puis pardonnés, mais d'abord aimés. Et c'est cet amour originel qui rend possible à la fois la chute et le relèvement. La voix féminine a également apporté au thème du pardon des tonalités particulières qui méritent d'être soulignées, souvent marquées par une expérience historique de subordination, de violence subie, de résilience nécessaire. Et les poétesses ont dû inventer des voies de pardon qui ne soient ni soumission, ni renoncement à la justice, mais une affirmation d'une dignité inaliénable. Je pense à Anna Akhmatova, témoin des purges staliniennes, qui a écrit des vers où la douleur personnelle s'entrelace à la tragédie collective. Son requiem pour les victimes de la terreur maintient une tension entre mémoire et compassion, entre accusation et pardon. Elle ne pardonne pas le système qui a broyé des millions de vies, mais elle préserve une humanité qui transcende la division bourreau-victime, reconnaissant que tous sont pris dans un même filet de souffrance. Emily Dickinson, également, et pour laquelle je vous renvoie aussi également sur l'épisode de podcast qui lui est consacré, dans sa retraite volontaire, explore l'intériorité avec une acuité inégalée. Ses poèmes courts et denses révèlent souvent un dialogue avec soi-même où le pardon se cherche dans l'acceptation de sa propre étrangeté, de sa propre contradiction. Elle disait « Je suis personne. Qui es-tu ? Es-tu personne aussi ?» Cette destitution du moi ouvre paradoxalement l'espace d'un pardon radical. S'il n'y a personne, qui aurait à pardonner ? Et qui à être pardonné ? La question est posée. Gabriela Mistral, qui est une poète chilienne, prix Nobel aussi également, chante dans ses vers la maternité universelle, cette capacité d'accueillir, de nourrir, de pardonner, qui transcende finalement les liens biologiques. Son poème, je ne suis pas espagnol, je m'excuserai l'éventuelle mauvaise prononciation, « Todas ibamos a ser reinas », nous allions tout être reine, en français, évoque les rêves déçus, les promesses non tenues, mais maintient une tendresse infinie pour ces vies marquées par l'inaccomplissement. Cette compassion constitue peut-être la forme la plus pure du pardon. Non pas condescendance envers la faiblesse d'autrui, mais plutôt reconnaissance de notre commune fragilité. Nombreux sont les poètes qui associent le pardon à un retour vers l'innocence de l'enfance, vers un état de conscience intérieure aux blessures, aux calculs, aux ressentiments. Cette régression créatrice ne nie pas l'expérience adulte, mais la traverse pour retrouver une forme de simplicité perdue. Charles Péguy, dans ses méditations sur Jeanne d'Arc et l'espérance, célèbre cette fraîcheur de l'âme qui rend le pardon possible. L'enfance devient métaphore d'une disponibilité du cœur, d'une capacité d'émerveillement qui dissout naturellement les rancœurs. cette thématique rejoint les paroles évangéliques. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, le royaume des cieux, ce domaine de la réconciliation ultime, s'ouvre à ceux qui retrouvent la confiance première, antérieure à la méfiance apprise. La poésie, eh bien, je trouve, accomplit parfois ce miracle de restitution. Elle nous rend notre regard d'enfant, capable de pardonner parce qu'incapable de tenir longtemps rancune, toujours prêt à reprendre le jeu après la dispute. Un des poètes très chers à mon cœur, Rainer Maria Rilke, dans ses lettres à un jeune poète, évoque cette patience nécessaire, cette maturation lente qui seule permet l'émergence de la véritable compréhension. Le pardon ne peut être hâté, forcé ou encore manufacturé. Il croit comme croit l'enfant. Selon des lois mystérieuses dans la protection d'une attention aimante. Cette sagesse poétique rappelle que nous ne produisons pas le pardon par notre propre volonté seule. Nous créons les conditions de son avènement. Puis nous attendons, confiants, qu'il se lève en nous comme se lèverait l'aube. Curieusement, certains des plus beaux poèmes sur le pardon sont aussi les plus silencieux, les plus dépouillés, comme si, arrivé à un certain degré d'intensité, le pardon ne pouvait plus s'exprimer que dans le retrait de la parole, dans l'effacement du verbe. Les espaces blancs sur la page, les ellipses, les non-dits, deviennent alors finalement porteurs d'une signification qui excède toute formulation. Mallarmé, qui est un maître du silence poétique, enseigne que peindre non la chose mais l'effet qu'elle produit, eh bien, nous initie à travers ça à un pardon véritable qui ne peut être directement nommé, seulement évoqué par les résonances qu'il crée. Cette poétique de l'allusion, de la suggestion, convient admirablement au thème du pardon qui, à mon sens, relève davantage de l'expérience ineffable que du concept définissable. Le silence qui suit certains poèmes constitue lui-même un acte de pardon, intrinsèquement. Le poète se tait, laisse résonner ses vers, renonce à expliquer, à justifier, à argumenter, et cette renonciation est une forme de grâce accordée au lecteur, une forme de liberté de comprendre selon sa propre expérience, invitation à poursuivre méditativement ce que le poème a lui-même initié, en fait. Le blanc de la page devient l'espace même où peut s'accomplir le pardon dans l'intimité de chaque conscience. Et en parlant de cela, je vous confie d'ailleurs que j'aime dessiner justement dans tous ces blancs de page autour des poèmes. Si le pardon semble d'abord une expérience éminemment personnelle, eh bien, la poésie révèle aussi sa dimension collective, sociale, politique même. Après les guerres civiles, après les génocides, après les dictatures, comment les sociétés peuvent-elles se reconstruire sans un minimum de pardon? Les poètes d'Afrique du Sud, après l'apartheid, du Rwanda, après le génocide, d'Amérique latine, après les dictatures militaires, ont exploré ces questions dans des œuvres poignantes que je vous invite à découvrir. La vérité et la réconciliation ne peuvent s'accomplir que si la parole poétique accompagne et dépasse le discours juridique ou politique. Car le pardon collectif exige non seulement des faits établis et des réparations matérielles, mais aussi une forme de guérison des mémoires, une transformation des imaginaires. La poésie, parce qu'elle touche au symbolique, au mythique, au sacré, peut œuvrer à cette transformation d'une façon que ne peuvent ni le droit ni la diplomatie au final. Aimé Césaire, dans son cahier d'un retour au pays natal, eh bien, accomplit un double mouvement. D'une part, une dénonciation sans concession du colonialisme et de ses ravages, et d'autre part, une affirmation de la négritude comme fierté retrouvée, comme renaissance finalement. Ce mouvement même dessine les contours d'un pardon possible, non pas oubli de l'offense, mais refus de laisser l'offense définir l'identité. capacité de se réapproprier son histoire et son destin. Pour conclure, nous voici parvenus au terme de ce cheminement, qui j'espère vous aura plu, dans les jardins du pardon poétique. Et nous avons rencontré des voix venues de tous les horizons, de toutes les époques, de toutes les traditions spirituelles, chacune à leur manière à témoigner de cette capacité mystérieuse et magnifique qui définit peut-être ce qu'il y a de plus noble dans l'humanité. Pouvoir transformer la blessure en sagesse, la rupture en réconciliation et la chute en renaissance. Le pardon tel que le chantent les poètes n'est pas une faiblesse ou une démission. Il constitue l'acte le plus courageux, celui qui exige de renoncer à la jouissance amère de la rancune, à la satisfaction de se croire victime, à la sécurité de l'identité forgée dans l'opposition. Pardonner, c'est accepter de mourir à une certaine image de soi pour renaître dans une conscience élargie, capable d'embrasser la complexité de l'expérience humaine. Les poètes nous enseignent que ce chemin ne s'accomplit pas d'un seul coup, par une décision volontariste. Le pardon mûrit lentement, comme mûrit le fruit sur l'arbre. Il nécessite patience, attention bienveillante envers nos propres résistances, confiance dans le processus de transformation. La poésie elle-même, par la beauté de ses images et la justesse de ses rythmes, crée les conditions favorables à cette maturation. Elle apaise, console, élève notre regard au-delà de nos blessures particulières vers des formes de vérité universelle. Que vous reteniez de cet épisode cette certitude serait essentiel. Le pardon est possible, il est même inscrit au cœur de notre nature profonde. Les plus grands poètes de l'humanité en ont témoigné, chacun selon sa sensibilité propre, bien sûr, mais tous convergent vers cette lumière. Alors, en cultivant en vous-même la capacité de pardonner à autrui, aux circonstances, à la vie elle-même, à vous-même surtout, vous participez à cette œuvre de beauté et de réparation que célèbre la grande poésie universelle. Puissent sincèrement les vers que nous avons médités ensemble demeurer en vous comme des semences de paix. Puissent-ils germer au moment opportun, vous offrant la force de choisir la réconciliation plutôt que la rancœur, la compréhension plutôt que le jugement, et l'amour plutôt que la peur. Tel est le vœu que je forme pour vous en ce jour, en ce dimanche, et telle est la promesse que porte toute authentique poésie, celle d'une humanité réconciliée avec elle-même, capable de transmuter ses épreuves en sagesse et ses larmes en lumière. C'était David pour le podcast devoixpoétiques.com.